16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces femmes qui incarnent l'élégance à la française. Après Jacqueline de Ribes et la comtesse Gréfulle, vous nous brossez, Mathieu, le portrait, à 99% vrai, d'un symbole vivant de cette élégance. Inès de la Fressange.
Les Anglais ont un mot pour définir ce qui différencie l'élégance française de toutes les autres élégances, understated, ou plutôt prononcé par un gars qui cause vraiment anglais, David.
Understated.
Merci. Inès de la Fressange, c'est le chic understated. C'est-à-dire le chic discret, si on veut, mais ça traduit mal le concept d'understated qui signifie plutôt sans ostentation, tout en finesse. Jamais tape à l'œil comme Olivier quand il fait claquer son caleçon Dolce Gabbana. Ou David, quand lors d'un premier rendez-vous Tinder, il pose avec fracas son poignet sur la table du resto histoire de montrer à sa target qu'il a une grosse Breitling à 5000.
Je possède des thunes. Je suis à
l'aise. Inès, c'est l'approche inverse du luxe. Un luxe feutré qui ne se la ramène pas. Une forme de classicisme aussi. Il faut rappeler ici qu'il y a globalement deux espèces de fashion victimes. Il y a d'abord les aventuriers, les défricheurs, les modeurs à l'esprit pionnier qui repoussent les frontières du style en prenant tous les risques, quitte à casser les codes, n'hésitant pas par exemple à acheter une chemise à motif ours polaire made in China à l'aéroport de Bucarest, sous prétexte que je cite
« Le kitsch, au bout d'un moment, ça devient culte ».
Et puis, il y a les tenants de la simplicité, sur qui un simple tailleur fait des merveilles, voire même un t-shirt blanc. Ce n'est pas ce qu'on porte, mais comment on le porte, disait Saint-Laurent. Comment devenir Inès de la Fressange, Stéphane ? La presse féminine a fait de cette question son fonds de commerce depuis près de 30 ans. Plus de 600 articles tentent de percer le secret de notre ambassadrice du bon goût. Tout a été inspecté, de sa garde-robe à son congélo. Grâce au Figaro Madame, on apprend ainsi qu'elle adore la purée de céleri de chez Picard. Ce à quoi elle ajoute, mutine, puisqu'on en est aux confidences, je fais mon coming out. J'aime beaucoup la compote pomme-rhubarbe de chez Andros et la crème Mont-Blanc au chocolat bien fraîche. Des compotes Andros et de la crème Mont-Blanc, quel déglingo cette Inès. Et c'est ça qu'on aime aussi chez elle, elle a pas l'air de se priver. Tu me diras, c'est encore plus dégueulasse pour nous, ça veut dire qu'elle a un métabolisme de dingue. Elle aime les crèmes Mont-Blanc, mais ça se voit pas, alors que Stéphane, par exemple...
J'adore la sauce de l'ossobuco.
Mais ça se voit, enfin, un peu, enfin il fait gaffe quoi. Bon, attention, Inès de la Fressange ne fait pas non plus n'importe quoi, surtout elle a des règles. Par exemple, le matin, en partant de chez elle, si après avoir parcouru plusieurs centaines de mètres, elle se rend compte soudainement qu'elle a oublié de mettre du parfum, paf, elle fait demi-tour et remonte chez elle pour s'en asperger. Qui fait ça, franchement? C'est ça le chic parisien. Et non pas, comme certains, de passer chez Intermarché pour s'asperger discrètement du déo Axe entre deux rayons. Je ne l'ai jamais fait, mais d'autres autour de cette table, oui. Même s'ils se sont sentis sacrément cons quand ils se sont fait griller par le vigile. Autre différence entre Inès et David, contrairement à lui qui déteste autant les crèmes hydratantes que les nazis, c'est ce qu'il nous a dit l'autre jour, Inès, elle, adore les crèmes en tout genre. Son produit beauté phare, la pâte dentifrice, répond-elle. Déjà, rien que ça, ne dites plus dentifrice, mais pâte dentifrice comme Inès et vous serez instantanément plus smart. Alors, pour devenir le symbole de l'élégance française, vous pouvez évidemment bosser dur, vous extraire d'un milieu social défavorisé à Villeurbanne où votre mère était prostituée et votre père alcoolique, mais le mieux, c'est de naître directement dans une famille de la haute aristocratie française à Gassin, dans une propriété de 26 chambres sur un terrain de 12 hectares. On gagne un temps fou. C'est ce que fait Inès, qui naît donc Inès Marie Laetitia Églantine de Seignard de la Fressange le 11 août 57 à Gassin, dans le Var. Je ne sais pas si vous connaissez Gassin, mais on peut difficilement faire plus chic. Gassin, c'est un petit village aussi joli que Saint-Trope, tout près de Saint-Trope, mais sans les milliardaires russes qui défigurent le port avec leurs gros yachts et sans les pauvres qui défigurent le quai avec leurs grosses glaces qu'ils lèchent en regardant les Russes sur les yachts. Le père d'Inès, ça va vous plaire Stéphane, est marquis. André de Seignard de la Fressange, avocat d'affaires international, un aristocrate originaire du Vélay, en Auvergne. Je ne me lance pas ici dans l'arbre généalogique complet, je n'ai pas, comme Stéphane, l'art de rendre simple ce qui est compliqué.
Henri d'Artois, le comte de Chambord, qui, je le rappelle, est son neveu parce qu'il est le fils posthume de son frère, le duc de Berry.
Oui. Son enfance, à Inès, pourtant, n'est pas très tradie, en tout cas pas très famille. Elle dit ne pas se souvenir d'un réel repas en famille à la maison. Ses parents partent se balader en décapotable rose, tandis qu'elle et son frère dînent en cuisine avec le petit personnel. Le jardinier, le maître d'hôtel, le chef cuistot, la nourrice et les gouvernants. Oui, l'enfance d'Inès ressemble beaucoup à la série d'Anton Abbé, en plus marrant, les vacances surtout. On était dans des Rolls avec mon frère, on passait nos vacances à Saint-Trope, Deauville, Megève, mais à chaque fois, notre gouvernante nous rappelait que des gens étaient démunis. Alors oui, attention, elle n'a pas grandi dans une tour d'ivoire, Inès, même si certaines de ses déclarations sont un peu étranges, je cite « On habitait dans un village et d'autres gens vivaient dans des grottes et on leur apportait des choses à manger comme au 19e siècle. » Mais qu'est-ce que c'est que ce village ? Deux choses l'une. Soit Inès confond les pauvres et les taupes, soit ses souvenirs s'embrouillent. En tout cas, dès l'enfance, elle détonne dans ce milieu très privilégié. Elle se souvient qu'elle rêvait d'habiter en HLM parce qu'elle se disait que ça devait être super d'être pote avec ses voisins. Hélas, elle n'aura jamais cette chance. Et non, la vie, cette chienne, balayera le rêve d'Inès qui n'ira jamais s'installer dans une barre de Grigny. Car à 17 ans, après avoir décroché son bac, elle se lance dans une carrière de mannequin sur les conseils de son petit ami de l'époque. Aussi incroyable que ça puisse sembler aujourd'hui, au début, elle est souvent recalée des castings.
Ah, qu'elle est laide.
Non, Gavroche, c'est comme ça qu'on dit. À mes débuts, les cheveux courts, pas maquillés, j'étonne un peu, explique celle qui va exploser ensuite après une série de photos avec Oliviero Toscani. D'emblée, elle n'est pas une mannequin parmi d'autres. Constatant sa fraîcheur, sa spontanéité, sa culture aussi, le milieu, pas du tout misogyne de la mode, la surnomme le mannequin qui parle. Son franc-parler et son humour surprennent tous ceux pour qui une top modèle ne peut pas émettre de pensées plus complexes que, disons...
La guerre, c'est plutôt moins bien que la paix.
Une singularité qui ne laisse pas indifférent le pape de la mode qui se dit...
Un mannequin qui parle, c'est exceptionnel. Plus je l'écoute parler, plus je me dis qu'elle est aussi intelligente que Choupé.
Ni une, ni deux, ni ein, ni zwei, comme on dit dans la langue de Goethe, car Lagerfeld lui propose de signer un contrat d'exclusivité avec Chanel, une première dans l'histoire du mannequinat français. Inès change alors du tout au tout en devenant aussi chiante que Cindy Crawford. Non, elle continue d'être la saltimbanque des podiums. Pendant les défilés, je fais beaucoup le pitre. J'arrive en pyjama avec mon oreiller, mon chien. L'idée, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Et oui, Stéphane, ça aussi c'est à noter, l'élégance française ne se prend pas au sérieux. Sinon, c'est l'élégance anglaise. En 1989, cela dit, Inès est choisie comme modèle du buste de Marianne, après Catherine Deneuve, mais avant Evelyne Thomas. Ça vous donne une idée de l'évolution des critères qualité pour ce buste. Inès oublie totalement qu'elle a signé une exclue avec Chanel et elle accepte de jouer Marianne. Das Boulette, Karl se fâche tout rouge.
Comment ? C'est un scandale ! Vite un Coca Light, je me sens mal.
Et il rompt son contrat.
Et je rompt le contrat, j'ombre grogne.
Il est vulgaire. En 1991...
Je lis ce qu'il a écrit sur ma fiche.
Ah non, c'est lui qui l'a dit.
Vous êtes incroyable.
En 91, Inès lance sa propre marque, puis ouvre sa boutique à Paris. Le succès est immédiat, mais... certainement plus artiste que businesswoman, en 99, elle est licenciée de sa propre société, n'étant pas actionnaire majoritaire, on lui dit oust. Alors, vous inquiétez pas trop pour elle non plus, je crois qu'elle a réussi à mettre un peu de côté. C'est quand même la mannequin française la plus célèbre au monde, elle a sa statue de cire au musée Grévin. Les années passent, mais son sens de l'humour ne s'estompe pas. Dernièrement, interrogée justement sur sa longévité dans le milieu, elle déclarait « Je suis la Lynn Renault de la mode ». Ne pas se prendre au sérieux, retenez que c'est là la clé du chic français, même si bien sûr, le goût nécessite d'être éduqué, il faut être sensibilisé à l'élégance, comme David, qui s'est intéressé au mobilier classique grâce à un prof.
Il m'a transmis sa passion du mobilier français du 18e siècle et aujourd'hui, je ne peux plus voir une commode Louis XVI sans...
sans avoir une érection, surtout.
Alors ça, c'est sûr, si tout le monde connaît l'élégance française, l'élégance luxembourgeoise, elle est beaucoup moins réputée. Hein. En même temps, que peut-on attendre en termes de chic d'un homme qui porte des chemises à motif ours polaire ?
Non, c'est pour défendre la planète.
Merci beaucoup. Je note une chose, Stéphane, oui. Vous n'avez jamais remis cette chemise.
Non. Non. Vous avez j'ai failli la remettre et non. Je me suis dit non.
Mais non, mais moi je l'adore cette chemise. Hein.
Donc, je vais la remettre. Bon, en tout cas, c'est très bien, Mathieu. Vous avez bien rendu hommage à la parisienne par excellence.
Et vous avez bien imité Karl, une fois de plus.
Bah, écoutez, c'est ma seule imitation dans la vie. À part les animaux, sinon.
Europe 1, historiquement vôtre.